Il y a déjà 40 et quelques années, pratiquement l'année de ma naissance, un certain Hiram Bingham se retrouvait pour la dernière fois, malheureusement pour lui, à Machu Picchu. Et là, à l'invitation du gouvernement péruvien, il allait couper un ruban, il allait ouvrir pour la première fois au grand tourisme les ruines qu'il avait découvertes en 1911. Un événement assez incroyable qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à vivre assez facilement en suivant sur 8 km ces zigzags qui montent vers ce site perdu dans les nuages. Un homme à tête blanche, un homme vieillard qui regardait, comme vous regarderez ce soir, les ruines de Machu Picchu pour la dernière fois. J'espère que pour vous, ce sera la première. Tout d'abord, quel temps fait-il dehors? Ouvrez simplement votre tente de camping. Il pourrait neiger? Non, il fait moins 10 degrés peut-être. Vous êtes à 4000 mètres d'altitude et vous allez petit à petit continuer la piste Inca. Vous allez vous rendre vers ce Machu Picchu que vous attendez déjà, que vous avez envie de découvrir. Pourquoi est-ce que je parle de cette piste Inca mondialement connue, un peu dangereuse aujourd'hui, je vous l'avoue, parce que certains ont su que votre paire de chaussures, votre sac, votre canif suisse ont une certaine valeur sur le marché noir de Cusco. La dernière mode d'ailleurs, c'est d'enlever les chaussures des marcheurs. C'est le meilleur moyen de ne pas être suivi une fois que vous les avez volées. Mais ça, c'est une autre histoire. Prenons l'idéal de l'époque Inca. Sortons de notre tambo, revêtons nos habits de bigogne ou de lama ou d'alpaca et continuons ce cheminement. 4000 mètres d'altitude, c'est vraiment l'altitude moyenne de cette étrange piste qui part de Cusco dont nous avons parlé, c'est-à-dire cette capitale des Incas, et qui reste tout au long des crêtes quelque chose qui paraît étrange. Parce que lorsqu'on se rend à Machu Picchu, ce qui nous étonne, c'est que, contrairement à aujourd'hui, cet accès impossible se faisait sur les hauteurs afin de surveiller constamment tout ce qui est autour de vous. Vous êtes au sommet du monde et vous allez vers un des sommets du monde. Et c'est vrai que si aujourd'hui on prend le train, qu'on longe une vallée, qu'on reste dans la moiteur de cette zone tropicale qui nous fait pressentir l'Amazone, non, au contraire, si vous êtes bon marcheur, si vous êtes Inca, vous allez passer d'un tambo à l'autre, d'une ruine à l'autre. Il y a des dizaines de petites ruines tout au long de ce cheminement. Je vous rappelle qu'il n'y a que 100 km entre la grande capitale et cette zone de jungle qui nous attend, Machu Picchu. Et cette antique voie, eh bien, elle serpente véritablement sur ce que je pourrais appeler l'épine dorsale de tous ces sommets de la cordillère. Et elle desservait en fait une sorte de rosaire. Oui, on pourrait penser pour une sorte de colliers de différents sites qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Il y a des sanctuaires fortifiés un peu partout. Et finalement, on surplombe totalement cette vallée sacrée des Incas. Je dirais même qu'on l'évite totalement. Et ça, c'est déjà important parce que quand on connaît exactement le nom des grands cheminements Incas, je crois qu'on comprend aussi où nous allons ce soir. C'est-à-dire que quand on dit Incanan ou qu'on dit Nankuna, ça se traduit, c'est très beau, ça pourrait être le titre d'une émission, ça s'appelle « Le chemin du temps ». Le chemin du temps pour un Inca, ça veut dire qu'en un siècle, il a été capable, sur sa petite planète, dans son petit coin d'Amérique du Sud, de créer entre 12 000 et 20 000 kilomètres de voies parfaites. J'ai déjà parlé de ces distances. Mais ces distances signifient d'abord qu'on a affaire à un fantastique réseau. Et pas seulement un réseau comme nous le concevons, un réseau sacré. On a découvert, c'est un exemple, on a découvert il y a quelques années que, et nous en parlerons peut-être la prochaine fois lors de la visite de Nazca que j'ai envie de vous faire, c'est-à-dire cette idée des pistes, des choses étranges, un peu magiques. On a découvert autour de Cusco ce qu'on appelle des seques. Les seques, imaginez-vous une toile d'araignée. C'est vrai que l'araignée, de manière tout à fait constante, crée non seulement des ronds concentriques, mais en même temps une façon de rejoindre chacun de ces fils. Eh bien, c'est ce qu'on a fait à partir du nombre du monde, non pas l'empire du milieu, l'empire des quatre parties, cet empire éclaté, c'est à partir de là que la toile d'araignée y part. Et bizarrement, Machu Picchu, c'est peut-être l'endroit de l'araignée. Donc si cette voix, cette Inkanan courait à travers tout le Tawantinsuyu, sur ce qu'on peut appeler aussi la piste du soleil, parce que le temps, c'est le soleil, c'est le temps. Donc vous voyez que même par cette terminaison, cette terminologie, si j'ose dire, en créant ma toile d'araignée, j'ai en même temps placé au centre le cœur même de cette toile, c'est-à-dire l'araignée elle-même, c'est-à-dire le soleil. Allez, je vous donne encore un autre exemple. Il y a quelque chose qui m'a toujours absolument fasciné quand je voyage sur place avec des gens. Je leur dis, admettons que je sois l'Inca et que vous soyez la noblesse Inca. Sachez que chaque fois que vous allez changer d'endroit, le monde va se décentrer. C'est fantastique. Ça veut dire que chaque fois que l'Inca, comme fils du soleil, changeait de place sur le territoire de l'Empire, l'araignée changeait de place, la toile changeait de place. Donc l'infrastructure, je reprends un exemple historique, lorsque les Espagnols sont arrivés, le soleil était à Quito. Le soleil n'était pas, en fait, à Cusco à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que, simplement, l'Inca, le grand Sapa Inca, l'Inca suprême, était ailleurs que dans la capitale. Donc, en temps de guerre, on déplaçait ainsi, sur la toile, le centre véritable du pouvoir et cette force solaire, ce temps aussi, cette façon de faire fonctionner le temps. Là, je suis parti un petit peu à l'écart, mais c'est simplement pour vous montrer que ce genre de choses, on les ressent aussi quand on prend la piste Inca et qu'on s'approche de Machu Picchu. Pourquoi est-ce que je voudrais que Machu Picchu soit le centre ? Eh bien, parce que nous sommes ce soir la cour, nous sommes ce soir en compagnie de l'Inca et nous déplaçons pour une fois le centre du monde de Cusco à Machu Picchu.
Caminito del indio, sendero colla sembrao de piedra. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Noche serrana llora la quena su honda nostalgia, y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama, y el caminito sabe cuál es la chola que el indio llama. Se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Y el camino lamenta ser el culpable de la distancia. Cantando en el cerro y llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio.
Tatawal Payupan qui parle du Camino del Indio, il parle surtout de la matière, il parle de cette pierre, il parle de la dureté de la pierre, du chemin de l'Indien. Et en fait, quand on se promène sur cet étrange ensemble de dalles, tout est pavé, il y a des blocs de granit entre deux murets qui sont parfaitement jointoyés, il y a une sorte de contention de la pierre, et puis il y a surtout ces escaliers, ces tailles qui sont véritablement incrustées dans la roche, et lorsqu'on tombe sur des pentes extrêmement fortes, on a même l'impression qu'on va faire partie du morceau de nature. Et ce qui est étrange aussi, c'est ces passages, lorsqu'on parle des grandes pistes, des passages à travers les marécages qui sont surélevés, et puis il y a cette rectitude qui a surpris tout le monde, qui a surtout surpris les Espagnols, d'autant plus que ces conquistadors, quand ils voyaient une chaussée, eux, ils avaient envie de contourner les cimes. Pas du tout. L'Inca, lui, il coupait quasi tout en ligne droite. Nous sommes en train maintenant de partir directement sur Machu Picchu. Je veux dire par là qu'en suivant ces crêtes, on prend le chemin le plus court qui soit vers notre but. Et ces chemins, d'abord, ils étaient extrêmement propres, ils étaient extrêmement travaillés. Je parle de ces 15 ou 20 000 kilomètres qui étaient constamment entretenus pour des gens qui ne voyageaient pas. Ça, c'est étrange. Je veux dire par là que si vous êtes un simple Inca, vous n'avez même pas le droit de faire un kilomètre autour de chez vous. Si vous êtes un Chasqui, vous allez faire 8 kilomètres au maximum pour apporter un message, une cordelette avec des nœuds un peu plus loin, et puis la passer à quelqu'un d'autre comme un jalon. Si vous êtes de la noblesse, peut-être que vous aurez éventuellement l'autorisation d'accompagner notre Sapa Inca qui est maintenant sur sa chaise à porteurs et qui avance vers Machu Picchu, pour autant qu'il ait vécu, pour autant qu'il ait un jour résidé à Machu Picchu. Mais enfin, ce qui est important, c'est qu'il n'y avait pas une herbe, il n'y avait pas un caillou, il n'y avait pas une seule mousse sur ces chemins, ils étaient parfaits. Et si je vous en parle autant que cela, pour qu'il n'y ait pas un seul brin de paille au moment du passage, de la litière de l'Inca, de ces milliers de lamas qui portaient leurs trésors, de tous ces militaires qui partaient à des kilomètres en Argentine, en Colombie, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le chemin n'était pas un chemin. Je vous rappelle que nous sommes dans une toile d'araignée. Et ce qui est extraordinaire chez l'Inca, c'est que le chemin, c'était le porteur du temps, mais c'est aussi le porteur de la langue. Cette langue sacrée, cette langue vivante qui faisait qu'aujourd'hui, qui fait encore qu'aujourd'hui, au Pérou, eh bien c'est le seul pays du monde latino-américain qui a eu un jour comme langue officielle le quechua, c'est-à-dire autre chose qu'une langue européenne. Et on a exporté cette langue à travers ses routes et on a même déporté des millions d'habitants. Ceux du Cusco du centre étaient eux-mêmes semés à l'extérieur du monde et on reprenait des gens qui parlaient une autre langue pour les obliger à apprendre le quechua dans le centre. J'ai déjà donné quelques exemples de ces étranges semailles Inca pour les pierres, pour ces pierres du Cusco qu'on est allé semer au sommet de ces pics des Andes jusqu'au Chili. Bien, pour la langue, pour les habitants, pour les cheminements, c'est la même chose. Donc vous voyez que le mot chemin se transforme. J'ai parlé de temps, j'ai parlé de voie du soleil. Effectivement, c'est d'abord religieux. Ce sont des centres religieuses qui vont permettre en même temps de créer une société, quelque chose de très rigide. Rien à voir avec nos autoroutes. Et quand on marche pendant 5 jours au minimum, sur cette pente qui descend petit à petit, qui remonte souvent à 4000 mètres et qui ensuite nous approche de Machu Picchu, on le sent bien. Et quand on imagine aussi cette arrivée étrange, je crois qu'il faut non seulement saisir qu'on est vraiment dans l'endroit peut-être le plus intrigant du monde Inca, mais qu'on est aussi à la limite d'un monde, la partie peut-être la plus étroite du monde Inca, celle qui amène vers la chaleur, celle qui amène vers l'Amazone. Et tout à l'heure, bien avant de passer la véritable porte, on tentera d'analyser peut-être un peu à quoi il faut à quoi il faut s'attendre lorsqu'on parle de voie magique. Et quand je dis voie magique, et qu'en plus je vous mets de la chaleur, et que je parle d'agriculture, et qu'on terminera avec de la cocaïne, je crois que vous saisissez déjà qu'on est vers un monde étrange et magique. Il est 7h21, le soleil vient de se lever à l'horizon, vous êtes sorti de votre tente, vous êtes le Sapan Inka. Et vous allez, en compagnie de votre famille, de votre gynécée incroyable, de toute votre cour, des grands capitaines, de tous les membres du clergé, ce clergé solaire, de tous vos fidèles vassaux qui viennent de l'ensemble de l'Empire, vous allez marcher et vous allez surtout les convier aujourd'hui à une des plus fastueuses fêtes cérémonielles que vous avez rêvé d'instaurer à Machu Picchu. Vous allez descendre vers cet endroit, nous ne le connaissons pas encore. Personne ne le connaît encore, dans votre cour, dans les gens qui vous entourent. C'est la première fois que vous vous y rendez. C'est Pachacutec, votre ancêtre, qui l'a construit. Il y a peut-être des gens qui vivent là, il y a peut-être des femmes choisies, il y a peut-être déjà des sacerdotes, il y a sûrement une partie de l'armée. Mais vous avez décidé d'aller au Temple du Soleil, voir l'Intihuatana, et puis créer peut-être un moment solaire important. Admettons que nous sommes le 24 juin, par exemple. Descendons et pensons à cette fête et vous allez voir qu'elle s'organisera simplement par le trajet mental, dans le silence absolu de Machu Picchu, dans le silence de la pierre. Je tenterai de vous faire suivre ce labyrinthe jusqu'au moment du sacrifice suprême. Plus fou, vous étiez sur votre litière tout à l'heure et on vient de vous demander de descendre de votre litière. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines parties de cette piste Inca qui sont tellement raffinées dans leur travail qu'on ne peut poser qu'un pied devant l'autre, c'est-à-dire que l'Inca lui-même a dû descendre de cette chaise et vous allez vraiment le faire en file indienne. Pourquoi? Pour mieux protéger Machu Picchu. Si vous étiez venu par le sud, il y a encore une chose beaucoup plus insensée qu'on a découvert il y a quelques années à peine. Le seul pont-levis incroyable du monde. Je vous dis incroyable, un pont-levis c'est trois fois rien. C'est simplement quatre troncs d'arbres d'une dizaine ou d'une quinzaine de mètres de longueur. Mais ce qui est fou, c'est que de chaque côté de ce pont-levis, il y a un mur qui fait plusieurs centaines de mètres de hauteur et qui est appuyé sur une falaise et qui rend véritablement le passage impossible. On aurait pu passer ailleurs. Non, on a choisi un pont-levis qui fait à peine 50 cm de largeur, vous laissez tomber les quatre troncs, il s'écroule au pied de ces 200 ou 300 mètres de cailloux entassés dans une falaise infinie, puisqu'il y a pratiquement 500 mètres de dénivellation jusqu'au fond de ce rio sacré. Vous imaginez simplement comment cela a dû être conçu. Quand on pense, je vous donne un autre exemple, on a essayé de faire un calcul élémentaire. Parce que maintenant que nous arrivons petit à petit au sommet, que nous voyons pour la première fois l'horizon Machu Picchu, que maintenant nous commençons à découvrir le fameux Huayna Picchu, tout le monde l'a vu, ce fameux pain de sucre étrange qui est au fond du site, eh bien quand nous arrivons là, effectivement, tout à coup nous découvrons quelque chose d'intéressant. Ce sont les andenes. Les andenes, tout un cas sait ce que c'est, ce sont ces fameuses terrasses qui permettent l'agriculture. Des terrasses qui descendent en cascade avant le site de Machu Picchu. Partout où il y a quelque chose de sacré, il y a des centaines et des centaines de mètres carrés d'agriculture, peut-être même simplement pour des raisons sacrées, pour le dieu qui est là, pour le sacerdote qui va offrir tout cela au soleil. Eh bien, ces terrasses, C'était pour vous donner l'exemple sur le plan distance, sur le plan construction. On a simplement fait le calcul. En prenant simplement les terrasses de la vallée sacrée, c'est-à-dire tout ce qui est autour de Cusco, et en les additionnant en kilomètres, on sait que sur à peu près 2 mètres de hauteur, c'est la moyenne à peu près d'une terrasse, on pourrait faire aujourd'hui le tour de la Terre. Bien sûr que c'est par mon côté archéologue que je respecte autant le passé, et si j'ai si longuement approché Machu Picchu par les crêtes, c'est parce que je refuse obstinément qu'un touriste entre par la porte normale. C'est vrai que même si je suis, et je le fais souvent, si je dois une fois accompagner un groupe de touristes, je les oblige à grimper directement derrière l'auberge actuelle, c'est difficile, il n'y a rien de particulier, ça n'est en tout cas pas un cas comme piste, et je les oblige à arriver par le haut. Le haut, c'est l'arrivée de cette piste incroyable, parce que l'approche de la cité sacrée, par cette chaussée véritablement impériale, il a quelque chose de fabuleux. Parce que, je vous ai dit que tout à l'heure, nous mettions un pied devant l'autre, et bien dès qu'on arrive à l'endroit peut-être le plus important, à ce qu'on appelle la Pacheta, et bien tout à coup, c'est ce panorama incroyable qui s'ouvre. C'est-à-dire que vous allez passer quelque chose qui a été construit pour cela. Il y a d'abord des portadas, c'est-à-dire des portes énormes, il y en a 5, il y en a exactement 2 pour entrer et 3 pour sortir. C'est une masse imposante, cette porte supérieure qui est au bout de la piste Inca, elle fait plus d'un mètre d'épaisseur. Et là, dès que vous l'avez passée, vous vous rendez compte que tout a changé. On vous dit déjà quelque chose d'autre. Et dans cette diction, c'est d'abord que le chemin s'élargit. Là, vous pouvez comprendre immédiatement qu'on va mettre en place véritablement une arrivée royale. La pente sera plus douce et les dalles arriveront souvent jusqu'à 1,50 m ou 2 m de large. Donc là, vous pouvez vraiment maintenant non seulement vous attendre à recevoir quelqu'un de Machu Picchu, mais vous aurez certainement, et ça c'est mon imagination, là je suis complètement subjectif, obligé les gens de Machu Picchu, les principaux, la noblesse, ceux qui y vivaient, et on ne sait pas qui véritablement y vivait, à sortir du site et à venir vous chercher à la porte sacrée et à créer un véritable cortège impérial qui vous amènera plus bas. Et plus bas, c'est d'abord la découverte de l'agriculture. C'est assez curieux de voir que le site est parfaitement découpé. Plus on l'étudie, plus on voit que rien n'est gratuit. C'est-à-dire que c'est un site qui a été conçu non pas pour des raisons seulement de fortification, parce qu'il est merveilleusement fortifié, je vous l'ai déjà décrit, à cause du pont-levis, à cause de la largeur des pistes, mais aussi par sa structure interne. Il y a un côté naturel qui est fou. On a choisi peut-être le plus bel endroit de cette vallée. Vous avez d'abord cette rivière qui crée un S incroyable et qui vous entoure complètement à quelques mètres de distance. Vous la sentez des deux côtés, vous l'entendez des deux côtés, 500 mètres plus bas. Et puis, tout à coup, vous allez voir que cette cascade de terrasses dont je parlais tout à l'heure permet en même temps de vous séparer de la partie sacrée que vous observez déjà. Je veux dire par là que ces terrasses sont habitées, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait y cultiver ? On parle obligatoirement de la chose qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la pomme de terre par exemple. Cette pomme de terre qui peut atteindre 1,5 kg si elle est bien cultivée, on en a plus de 700 variétés aujourd'hui, uniquement au Pérou. Cette pomme de terre qu'il a fallu attendre 3 siècles avant que tout à coup un certain Louis XVI mette sa fleur, si j'ai bonne mémoire, à sa boutonnière à la cour de France, pour que finalement on arrête de la donner aux pourceaux, et elle a nourri pendant des millénaires tous les précolombiens de l'Amérique du Sud. Mais sachez quand même, au départ, elle était poison, donc il a fallu s'organiser au point de vue agricole pour qu'elle devienne comestible. Ça, je pense l'avoir déjà dit, mais l'autre élément, c'est le maïs. Mais ce qui m'intéresse pas, quand on arrive à cet endroit, on se dit qu'en fait, il n'y a pas dû y avoir que du maïs sacré, que des pommes de terre pour nourrir cette petite population, mais qu'il y a dû peut-être y avoir encore autre chose. Et là, c'est une des clés du mystère. C'est une clé comme une autre, on la prend, on la laisse, mais on est très très proche d'un endroit curieux, qui est celui où l'on cultive effectivement la coca. La coca qui fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui, parce que, bien sûr, on en fait nous de la cocaïne, et que le Pérou est en train d'entrer, malheureusement, politiquement parlant, économiquement parlant, dans ce même réseau terrifiant des trafiquants et naturellement des agriculteurs qui gagnent 10 fois plus qu'avec des produits normaux, comme c'est déjà le cas en Bolivie, et tout cela s'exporte en Colombie, mais ça n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, même si on le ressent très fortement lorsqu'on voyage aujourd'hui au Pérou, parce que quand je vous parle de ça, je parle déjà du sentier lumineux, qui n'a rien à voir avec notre sentier Inca de ce soir, mais le sentier lumineux est nourri par la coca, comme l'Inca l'avait découverte et en avait fait un produit de luxe qu'on distribuait uniquement au niveau de la noblesse. Bah, curieusement, les choses se retrouvent à d'autres niveaux. Si une mafia peut avoir de l'argent, c'est comme à l'époque une certaine noblesse pouvait jouer les distributeurs et en fait commander absolument tout le monde religieux de l'époque avec des choses aussi élémentaires que celles-là. Eh bien, sur ces terrasses, s'il y a eu de la coca, par exemple, ceci nous prouverait que nous sommes à la porte d'un autre monde. Machu Picchu, bien sûr que c'est la défense de l'Amazone, bien sûr que c'est la crainte de ces Indiens nus, de ces Indiens peints qui pouvaient de temps à autre venir ennuyer les civilisés des hauts plateaux. Mais en même temps, c'est également l'entrée de toute cette production des produits de luxe, justement. La plume, enfin tout ce qui vient de la jungle est luxueux par évidence. Ça permettra surtout d'obtenir cette coca dont la distribution est basée quand même de nouveau, comme mes chemins de tout à l'heure, sur une base assez curieusement magique. J'entends par là que toute drogue a permis non seulement l'art, mais la religion et surtout l'expression même de cette civilisation, c'est-à-dire cette façon de comprendre que le côté surréel, le surréalisme et la surréalité, c'est l'évidence même d'une réalité qu'on ne veut pas toujours vivre.
Thank you.
nous y voilà. Nous observons maintenant véritablement la ville, nous sommes exactement en face de cette porte, nous descendons cette voie sacrée, il faut rentrer, mais pas n'importe comment, pas n'importe où. Regardons d'abord cette maquette extraordinaire, tout le monde l'a sous les yeux, vous avez tous dans votre tête une photo, la photo de Machu Picchu, et vous allez voir que à la fin de cette chaussée, ce panorama qui est absolument unique sur la planète, vous le connaissez involontairement parce que vous allez trouver cette façon de délimiter le site sur trois côtés, trois faces avec ces précipices absolument insondables. Vous devinez, en regardant bien la photo, vous devinez toutes ces grottes, cette espèce de roche assez curieuse qui ceinture tout cela, des grottes funéraires d'ailleurs, des sortes de cimetières qu'on trouve un peu partout. Et puis, il y a cette envolée des terrasses. J'ai parlé de celles qui descendaient vers Machu Picchu, le quartier des agriculteurs, comme on l'appelle encore aujourd'hui. Mais il y a ces terrasses que tout à coup, on commence à deviner au sommet du pain de sucre, c'est-à-dire dans des endroits complètement impossibles. Partout, il y a eu des terrasses qui sont pyramidales et qui remplissent l'espace. Et il y a surtout ces grandes places vides, étranges, en plein milieu du site, qui descendent elles aussi un peu en cascade, se dégrader des verres de ces grandes places. Et puis, il y a, on le devine à peine, ces thermes, ces espèces de petites cascades, ces petites fontaines, ces thermes rituels qu'on finit par deviner quand on nous dit qu'il y a 16 fontaines, on voit les escaliers qui correspondent à ces 16 fontaines. Et puis tout à coup, on regarde aussi la dimension même du site, on est surpris. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait peut-être 700 mètres sur 500 mètres, grosso modo. C'est moins grand qu'on le pensait, mais c'est plus grand qu'on l'imaginait. Parce qu'autour, il y a des sommets qui montent à plusieurs milliers de mètres, donc on est dans un cirque absolument fou. Et puis si on regarde le détail, immédiatement on est troublé par les traits, c'est-à-dire plus exactement les cascades de traits, plus exactement le côté scalaire, ces milliers et ces milliers de marches d'escalier. C'est la ville au monde où il y a peut-être le plus d'escaliers. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a 3000 escaliers uniquement pour le site, hein. 3000 marches et pratiquement un millier de possibilités de passer d'un coin à l'autre. Et puis si vous regardez encore le détail, vous allez voir qu'il y a des quartiers qui sont très bien délimités. Il y a une douzaine de petits quartiers bien fermés sur eux-mêmes, avec des rues qui fonctionnent un peu comme des souricières. Et si on regarde en plus, on pourrait même s'amuser à compter les édifices parce qu'ils sont très bien démarqués. On voit qu'autour de chacun d'eux, il y a suffisamment d'espace ou un mur suffisamment épais, même s'il n'y a plus de toit, pour qu'on puisse dire aujourd'hui à Machu Picchu, il y a 216 édifices. Oui, je suis extrêmement précis, mais on le voit dès qu'on arrive devant ce site parce que d'abord, en arrivant, on a d'abord envie de s'installer, on a d'abord envie de regarder longuement tout cela. Et quand on est arrivé comme ça par les crêtes, c'est vrai qu'on a ensuite involontairement envie de suivre ce labyrinthe, de chercher l'entrée véritable de ce labyrinthe. Et je vous ai dit que le tout était fortifié. Alors tout à coup on réfléchit, on se dit mais c'est vrai, le quartier des agriculteurs n'est pas protégé. Au bout du quartier des agriculteurs, il y a un étrange canal qui coupe la moitié du site, enfin qui coupe le site en deux si vous voulez. Et on voit après une énorme muraille. Et cette muraille ferme quelque chose qui vous a paru très concis, très, très construit. C'est Machu Picchu. Et dans cette muraille, il n'y a qu'une seule issue, il n'y a qu'une seule porte. La porte qu'il faudra maintenant passer. Prenons maintenant notre coca. Sortons les feuilles de la petite bourse à coca que porte toujours l'Inca. Prenons la yipta, cette étrange pâte de carbonate de chaux, enfin de la cendre si vous préférez, qui correspond à des tiges de quinoa qu'on a brûlées. Et puis, vous mettez ça dans votre bouche comme tout indien le fait. 60 grammes par jour. C'est énorme. 60 grammes de ces feuilles vertes qu'on distille petit à petit grâce à la yipta, qui va créer une réaction bien sûr. Parce que la feuille toute seule en thé ne vous fera rien, il faut la yipta, il faut cette matière supplémentaire. Et là, tout à coup, vous aurez 250 mg de cocaïne que vous allez petit à petit ingurgiter. Quand vous savez qu'un médecin vous interdit d'en prendre plus de 30 mg par jour, vous allez voir. la coca, c'est l'herbe magique, c'est cette feuille divinisée entre toutes. Attention, vous l'avez mangée, maintenant nous allons la brûler. Car la coca, c'est ce qui constitue véritablement l'encens. Enfin oui, c'est l'encens du soleil, c'est la chose qu'on offrait de toute façon au soleil. C'est pour cela que c'était l'Inca, le Sapan Inca lui-même, le fils du soleil, qui avait le droit de la distribuer. Il était le seul possesseur de la coca. Ah, je vais vous donner un autre exemple assez curieux. C'est un savant que je n'apprécie pas forcément, mais qui a des idées assez fantastiques, qui s'appelle Uriel Garcia, que j'ai connu au Pérou, et qui m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup surpris. C'est la coca qui m'y fait penser. Lui, il estime que le mot « Picchu » vient d'un terme, parce qu'il faut le savoir, « Picchai », ça veut dire « mastiquer la coca ». Donc, pour lui, le Machu Picchu, dans la traduction, c'est effectivement la grosse chique de coca que les Indiens ont au coin de la bouche, qu'on retrouve sur toutes les céramiques de l'époque. Ça veut dire que le Huayna Picchu, le jeune pic, c'est dans son essence même l'idée de cette bourse, ou plus exactement de cette chique que vous avez dans la joue. Ce serait assez fou de penser qu'on aurait pu imaginer un site en fonction de cette magie même. Ce serait assez un cas, puisque je crois il y a quelques jours, je vous racontais comment Cusco était un véritable jaguar. Alors pourquoi pas Machu Picchu, une chique de coca? Cette porte extraordinaire, monolithique, grande en trapèze, et avec ce linteau énorme en dessus, vous allez maintenant pénétrer dans Machu Picchu. Attention, à partir de là, il faudra sortir vos antennes. Nous avons pris la coca tout à l'heure, mais c'est simplement parce que c'est quand même extraordinaire de penser que vous rentrez dans une ville où il n'y a aucun panneau d'indication, où il n'y a aucune gravure, il n'y a pas un seul dessin, et il ne reste strictement rien aujourd'hui. Peut-être une forme en bec d'oiseau dans un petit coin perdu du site. C'est tout. Le reste de la pierre, taillée et surtout non taillée. Virginité, travail de l'homme, immensité naturelle, avec juste cette intervention du sculpteur, cette intervention du penseur, cette intervention qui fait que, c'est vrai, quand un touriste, le plus simple des touristes qui arrive à Machu Picchu par la bonne porte, à mon avis, il entre un peu en religion. Il arrive dans un endroit qui immédiatement va le prendre au trip. Il ne sait pas pourquoi. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Je connais un Indien qui vit depuis 14 ans à Machu Picchu. C'est lui qui, toutes les nuits, car maintenant, avant c'était interdit, mais j'ai toujours réussi à pénétrer, surtout les nuits de pleine lune, à l'intérieur de Machu Picchu, parce qu'il y a un côté tellurique, il y a quelque chose d'étrange, et pourtant je ne suis pas celui qui ferait du mystical travel, comme on le voit beaucoup maintenant aux États-Unis, pas du tout. Mais cet Indien, il habitait le lac Titicaca, sur une île. Et un jour, il a senti simplement le besoin, après sa chic de coca, de voyager. Il est parti de l'île, il a pris le bateau, il est arrivé à Puno. Puno, c'est une ville très connue, il n'y a pas 36 000 solutions. À Puno, vous allez à Juliaca, et à Juliaca, vous avez deux solutions. Soit vous partez du côté de Cusco, soit vous partez à Arequipa. Lui, vous l'allez sur la côte, lui voulait voir Lima, voulait voir sa capitale. Il s'est trompé de train. Il est parti à Cusco, il y a 14 ans qu'il est à Machu Picchu. Parce que depuis Cusco, il a pris le train suivant, et il s'est encore trompé de train de gare, et il a pris le petit train qui l'a amené à Machu Picchu. Il y a 14 ans qu'il est gardien, il y a 14 ans qu'il regarde les étoiles, et il est absolument persuadé que Machu Picchu est le centre du monde. Il a laissé famille, enfants, et maintenant c'est vrai qu'il vit complètement l'aventure Inca, qu'il traduit le ciel Inca, le jour, la nuit, chaque sommet, la sortie du Capricorne, le Scorpion, tel et tel signe, qu'il traduit d'ailleurs, d'abord en Aymara, ensuite en Quechua. C'est beau, non? Sans la porte, vous vous retournez, c'est normal, elle est tellement curieuse cette porte. Et au sommet, il y a un étrange anneau de pierre qui est pris dans la masse, qui servait certainement à passer une corde pour bien la fermer, pour vous enfermer à l'intérieur de cette... J'ai toujours pensé que Machu Picchu était une énorme bague avec une gemme au centre. Une gemme qui brille comme on fait briller un diamant parce qu'on l'a juste taillé ce qu'il fallait. Tout Machu Picchu est un immense morceau de roche que l'homme a à peine façonné pour qu'il brille de manière magique. Et dès que vous entrez, vous commencez à prendre le cheminement. Vous sentez des cailloux. Des cailloux d'abord un peu normaux. Je veux dire par là, un départ de construction qui vous fait dire bah, il y a peut-être une sentinelle derrière ce mur. Il y a peut-être une caserne derrière celui-ci. Et un peu plus bas, première surprise, une explosion, un pétard allumé, quelque chose d'étrange, tout un champ entièrement vierge. Je veux dire... des morceaux, des éclats de pierre, comme si vous aviez déposé de la dynamite et que toute la roche de base avait tout à coup explosé. Jamais un Inca n'aurait touché un endroit comme celui-ci, c'est trop beau. Ces arêtes vives, ce côté étrange, ben oui, il y a une petite grotte, il y a un tout petit siège, il y a une tombe, des choses que Bingham a trouvées en 1911. Et puis, votre escalier vous oblige à partir sur la droite. Et puis là, vous sentez que la construction vient de changer. Tout à coup, les pierres sont un peu plus belles. Un peu plus lisse, les formes polygonales deviennent plus étranges. Mais au lieu d'avoir une roche que vous avez envie de frotter en retirant le doigt, vous commencez à avoir une roche que vous avez envie de caresser. Le granit devient très lisse, très beau, le choix même du granit a changé. Vous arrivez un peu plus loin et tout à coup, vous faites un vrai virage, vous êtes obligé, vous avez une cassure. Vous avez encore une petite grotte à gauche, une roche toute seule. Et cette cassure vous amène instantanément devant quelque chose qui va vous toucher aux tripes. C'est une fontaine parfaite. Exactement. Vous savez, dans les vieux chalets du Jura, on avait ces égouttoirs extrêmement lisses. C'est cela. Mais avec une arrivée d'eau, une canalisation qui passe sous la muraille, on sait qu'on sent cette perfection de l'arrivée de l'eau, un canal qui a fait plusieurs kilomètres. Et puis, quand vous avez un peu de chance, je l'ai vu, il y a encore cet écoulement actuellement, qui est souvent coupé d'ailleurs selon la saison. ou simplement parce que les archéologues ont découvert que ça usait la pierre. Mon Dieu, si c'est beau pourtant. Et cet endroit, eh bien, vous avez envie immédiatement d'y faire des ablutions, vous avez envie de vous y arrêter. Bah, c'est le bénitier d'une église normale. Mais il y en a 16 à Machu Picchu qui descendent en cascade, comme si on ne voulait pas perdre une seule goutte de cette eau précieuse. Est-ce qu'il y avait de l'eau d'abord? Je veux dire par là, voilà, qu'il y avait-il ou que faisait-on dans ces thermes sacrés, dans ces fontaines sacrées? Les Indiens de la région vous disent que les orpailleurs incas y trouvaient de l'or, que les sources produisaient de l'or. Il y a des légendes incroyables. On disait même qu'il y avait des sacrifices. D'autres vous disent qu'on y nettoyait la laine de vigogne puisqu'il y avait des femmes choisies qui tissaient pour l'inca. Il y a 1000 légendes. Ça n'est pas important. Vous vous sentez, simplement par la matière, que vous venez de toucher une première fontaine et qu'elle a quelque chose de sacré. Vous continuez le cheminement. Sur la droite, la roche redevient normale. À gauche, à chaque centimètre, la roche devient plus belle. Chaque pierre s'améliore. Et tout à coup, vous arrivez pratiquement à de la peau de bébé. Là, vous n'avez plus la possibilité de faire pénétrer une lame de rasoir entre deux cailloux. Vous dites, tiens, c'est pourtant un simple couloir. Derrière, il doit y avoir quelque chose. Vous continuez et vous arrivez devant une porte presque aussi belle que celle de l'entrée de Machu Picchu. Passez là. Vous verrez de nouveau l'anneau de pierre, mais vous verrez qu'il y a de nouveau quelque chose dans la matière qui vous parle. Sans un mot, vous sentez tout à coup que vous êtes dans une espèce de sacristie. Vous savez ces moments magiques, Chartres, l'Acropole, Karnak, Machu Picchu.
Qué bello nombre es tu nombre, Uruguay. Sonoro como una fruta salvaje, de áspera piel, apretada de jugos, sol y carne con sangre azucarada, voz de paisajes, de escondidos ríos, voz para que la digan los hombres en la noche, como una consigna, una sola divisa desplegada, Uruguay.
Toute l'Amérique latine parle la même langue. Ce côté sacré, Uruguay, Argentina, Chile, Pérou, partout on ressent ce côté magique de l'Indien. Atahualpa Yupanqui, c'est un peu l'Inca du coin, c'est un peu l'Aymara du coin. C'est un peu le guaraniste du coin. Nous sommes maintenant à Machu Picchu, et c'est vrai qu'en pénétrant dans le Torreón, un nom étrange, on pénètre dans un fer à cheval qui est parfait. Au milieu, il y a une pierre vierge. Dessous, il y a une grotte vierge. On a choisi une grotte, et sur cette grotte, on a construit quelque chose. Mais c'est exactement comme si vous aviez pris le bord de la roche et qu'il ait fallu trouver exactement les pierres qui s'imbriquent dans cette roche. Vous ne voyez même pas la transition entre la grotte et la construction du temple qui se trouve par-dessus. Vous avez construit un fer à cheval en hauteur, sur une pierre vierge, et vous avez un culte souterrain et un culte au soleil de midi. Donc vous sentez vraiment que vous êtes dans un endroit sacré qui vous parle du haut et du bas. C'est tout le langage de Machu Picchu. À partir de là, bien sûr que vous aurez un culte. C'est naturel que le Sapan Inca sera là avec les grands prêtres. Après cela, vous descendrez à la deuxième fontaine, qui est encore plus belle, face à une fenêtre complètement impossible, pleine de trous, pleine de labyrinthes, pleine d'endroits où attacher des plaques de métal, des espèces de couloirs étranges qui creusent la pierre en faisant des virages impossibles. On ne sait même pas comment on a creusé cela. Et vous avez une fontaine encore plus belle que la première. Vous continuez votre cheminement, et naturellement, vous serez amené devant un des immeubles les plus fous Aucune traduction, je vous le rappelle. Un des immeubles les plus fous de Machu Picchu, celui avec ses trois fameuses fenêtres qui donnent sur le vide de la place. Et puis un bloc énorme qui a plus de 30 angles parfaits sur lesquels viennent s'imbriquer autant de pierres parfaites. Un bloc qui pèse plusieurs dizaines de tonnes et qui nous fait penser à une autre sacristie absolument magique. Et puis vous prenez une de ces 3000 marches et vous montez petit à petit jusqu'à l'endroit peut-être le plus fou de Machu Picchu. Telluriquement, vous vous sentez en plein cœur de quelque chose. Il y a le vide à gauche, 500 mètres de chute. Vous voyez la rivière en contrebas. Vous arrivez au sommet, une porte, une enceinte avec quelques pierres, et tout à coup ce bloc, que tout le monde connaît aussi. Ce bloc étrange, l'Intihuatana, la pierre où l'on attache le soleil. Personne ne pourra vous dire ce qu'on y attache. Personne ne pourra vous dire à quoi elle a vraiment servi. Et pourtant, à minuit, à midi, elle vous parle. C'est vraiment là que Machu Picchu a été attaché. Elle fait partie du sol. Elle est prise dans le sol. C'est la chair même du site. Et puis en face, ce pic incroyable, Huayna Picchu. Avant d'y aller, une chose encore plus fantastique, le fait de se trouver devant la plus grande pierre dressée, une espèce de couteau géant de plusieurs mètres de longueur, de plusieurs mètres de hauteur, qui représente une sorte de paysage, et vous vous attaquez au Huayna Picchu. Vous allez monter de plusieurs centaines de mètres pour arriver de nouveau au sommet devant un éclatement de roche, avec un sanctuaire, un petit siège, une petite chose. Vous allez prendre ensuite un sentier avec un mur artificiel de plusieurs centaines de mètres de hauteur, simplement pour que vous puissiez partir et suivre ce petit balcon jusqu'au sanctuaire de la lune, encore plus caché, encore plus étrange, tout à fait derrière le pain de sucre. En quelques mots, je viens de vous dire que nous avons déjà traversé, vécu, 5 cérémonies éblouissantes, avec rien. Quelques morceaux de textile, quelques bols d'or, un ou deux sacrifices, un lama par-ci, un petit animal par-là, une vierge du soleil qui apporte l'offrande, un couvent, des artisans, une vie peut-être toute simple comme celle de nos grands couvents, comme celle de nos grandes cathédrales, mais posée sur le vide, dans une nature où lorsque vous êtes au sommet du Huayna Picchu, le monde est vraiment sous vos pieds. Nous étions au sommet du monde, nous allons redescendre la prochaine fois du côté pacifique. Ah, vous avez aimé peut-être le chemin de Machu Picchu. Suivons d'autres pistes, les fameuses pistes de Nazca. Ce sont peut-être les plus étranges du monde. Une autre façon de vivre par la magie, par la momie, par quelques cailloux déplacés. Un labyrinthe, un argument, une religion, une civilisation qui n'est pas la nôtre.